Katsanga, 16 morts dont 12 assaillants, un civil et 3 militaires. C'est le bilan officiel provisoire des affrontements entre les FRDC et les miliciens Bakassa Katanga dimanche dans la ville de Lubumbashi. Selon le comité national de sécurité, c'est vers 4h du matin que le mouvement sécessionniste Bakassa Katanga simultanément attaqué le camp Kimbembe de la garde républicaine et le camp Kibati du bataillon défense de la 22e région militaire à Lubumbashi dans la province du Haut Katanga. Des enquêtes sont en cours pour identifier les potentiels commanditaires de cette incursion dans la ville de Lubumbashi, a expliqué dans le compte-rendu de la réunion du Comité national de sécurité, le porte-parole de la police nationale. Comment analyser cette énième incursion des Bakassa Katanga à Lubumbashi? Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître Timothée Mbouya, directeur de l'ONG Justicia Asbel, une organisation de défense du droit de l'homme basée à Lubumbashi. Maître Timothée Mbouya, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kati et bonne année.
Maître King Mushilanama, coordonnateur général de l'ONG Humanisme et Droits Humains, HDH en sigle, une ONG basée à Lubumbashi. Maître King, bonsoir. Nous avons perdu Maître King, la réalisation va essayer de le retrouver. Professeur Gabin Badi Kabuya, criminologue et directeur de l'école de criminologie de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Professeur Gabin Badi, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
Vos réactions, auditeurs de Radio Kapi, nous les avons reçues. Jean-Pierre Kabuya, qui nous écrit depuis Kinshasa, pense que les autorités nationales et provinciales sont responsables de tout ce qui se passe au Katanga, car comment comprendre qu'une grande ville comme Lubumbashi soit attaquée par une cinquantaine de personnes, alors que l'ANR, la police et les FRDC sont très présents dans cette province. Roger Mpenga, depuis Lubumbashi, que les tireurs des ficelles et commanditaires de ces actes continuent de circuler librement dans la nature, ces incursions ne s'arrêteront pas. Je me demande où sont les conclusions de l'enquête menée par le gouvernement lors de la dernière incursion des Bakassa Katanga. Nous avons tenté d'avoir une autorité provinciale du Haut-Katanga dans ce débat. Malheureusement, personne n'a voulu s'exprimer. Donc, comprenez, chers auditeurs, que plusieurs de vos questions leur adressées seront sans réponse. Vous êtes très nombreux à suivre ce magazine à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga sous la 95.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
L'attaque des dépôts d'armement au camp militaire Kimbembe dans la commune annexe et Kibati au quartier industriel dans la commune de Kapemba par les miliciens a fait une dizaine de morts selon les sources officielles. Les victimes se recrutent aussi bien dans les camps, dans les rangs des assaillants que celui des forces armées et de la population civile. Il y a également des interpellations. Cette situation qui met en mal la sécurité de la ville de Lubumbashi suscite plusieurs interrogations. Les détails avec vous, Jean Gandou.
24 heures après l'incursion des miliciens Bakassa Katanga dans la ville de Lubumbashi, ce lundi matin, la capitale du cuivre a repris son ambiance habituelle. L'incident de ce dimanche est le énième d'une longue série. À ce propos, plusieurs questions taraudent les esprits. Qui sont les commanditaires de ces miliciens qui mettent en mal la sécurité de la ville? Combien sont-ils? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs revendications? Comment comprendre la facilité avec laquelle ils infiltrent la ville? Où vont-ils se réfugier chaque fois qu'ils sont repoussés par les forces de l'ordre? Et pourquoi les services de sécurité ne prennent-ils pas le devant pour contrer toute velléité des forces négatives? Encore que l'incident de ce dimanche était précédé d'une alerte faite sur les réseaux sociaux invitant les autorités à la vigilance car une attaque de la ville était planifiée pour ce jour. Ces questions, comme beaucoup d'autres que la plupart se posent, demeurent pour l'instant sans réponse. Et dans tout le cas, c'est la population civile qui en paye le lourd tribut. Ce qui est des troublés et certains d'entre ses membres sont chaque fois fauchés par des balles perdues et la psychose gagne du terrain. Au regard de tout ceci, l'ONG de défense des droits de l'homme, humanisme et droits humains suggère la réorganisation l'organisation du système de sécurité. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Merci Jean Gandou pour ce reportage. Maître Timothée Mbouya, directeur de l'ONG Justicias Bell, c'est une organisation de défense de droits de l'homme basée à Lubumbashi. Maître Timothée, encore une incursion des Bakata Katanga à Lubumbashi, une énième incursion de ces miliciens. Comment vous analysez cela?
Bon, ce qu'on comprend, c'est que nos services de sécurité ou nos services de renseignement militaire ont été très défaillants. D'ailleurs, je salue ici le reportage que vient de faire Monsieur Jean Gandou, voilà, dans lequel non seulement il parle d'une énième incursion, mais également il rappelle que cette incursion a été précédée des messages. Hein. Donc il y a deux semaines maintenant que des messages ont été diffusés ça et là dans les réseaux sociaux indiquant qu'une imminente attaque de la ville était possible et allait intervenir lundi 4 matin. Et d'ailleurs, quand vous allez sur la route vers Tinsevere, vous allez vous rendre, donc quand vous êtes sur la route vers Tinsevere, à votre gauche, hein, disons, il y a un dispositif militaire qui est là, qui a été mis là, placé là depuis deux semaines, et à quelques 7 ou 10 minutes du camp du bébé qui vient d'être attaqué, et un peu plus loin de là, dans toute la brousse entre la ville de Lubumbashi et Kinsevere, il y a deux points chauds des militaires qui ont été placés également. Donc je crois qu'avec tous ces dispositifs militaires, doublé du fait que nous sommes pendant une période de couvre-feu, donc il est supposé qu'aucune personne ne pourrait valablement se promener la nuit, disons, entre 21h et 5h du matin. Donc, quand on se rend compte que 40 ou 50 personnes peuvent se promener à 15h du matin et commencer une opération, se promener avec des armes lourdes, bien entendu, et procéder à une opération, pas n'importe laquelle, donc attaquer deux cibles militaires parmi les plus significatives de la ville ou de la province, je crois qu'on ne peut plus se poser des questions sur la compétence, c'est pas la complicité des non-services de sécurité. En plus de cela, lors de cette incursion, on a constaté quand même que les Maïmaï, contrairement à ce qu'ils utilisaient avant comme arme, maintenant, ils ont des armes assez sophistiquées qui ne peuvent être utilisées que par des professionnels. Donc, on croit que les deux PKM, tels que le rapport du gouvernement les enseigne, les deux PKM qui ont été ravis aux miliciens, c'est justement des armes très lourdes, des armes très sophistiquées, qu'un milicien, un simple milicien, ne peut pas manipuler. Donc, ce qui laisse croire que parmi les miliciens ont été renforcés, hein, ont été vraiment renforcés avec des éléments qui viendraient probablement des forces armées congolaises ou même de la police. Donc, c'est sûrement des gens qui savent très bien manipuler ces instruments. Donc, nous disons qu'il y a une défaillance de nos services de sécurité. Quand vous suivez aussi les rapports de compte rendu du gouvernement, c'est plus ou moins 100 personnes qui ont attaqué la ville. Et là, on a maîtrisé qu'une vingtaine. Donc, il y a au moins 80 qui sont encore dans la nature et qui vont certainement revenir dans les jours à venir.
Maître Timothée Mbouya, des alertes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont précédé cette incursion des Bakata Katanga. On peut parler des négligences de nos services de renseignement. Négligence ou complicité, les services ont laissé faire.
Négligence, complicité, incompétence, tout ceci entre en jeu. Négligence justement parce que moi je suis au courant que tous les services ont été alertés. Incompétence parce qu'ils prennent des mesures, ils prennent des dispositifs, ils mettent en place des dispositifs qui ne répondent pas à la problématique. Complicité probablement parce que, comme je venais de le dire tantôt, maintenant on sent que ces deux groupes qui sont de plus en plus mieux structurés, qui ont la capacité de se mouvoir, qui ont la capacité d'utiliser des armes sophistiquées, qui gèrent les informations et qui savent où et quand ils vont agir, ils vont frapper. Donc je crois qu'il y a négligence, il y a incompétence, il y a complicité, et donc s'il faut prendre des mesures, je pense que les autorités à un plus haut niveau ne devraient pas être complaisantes.
Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir que fait-on de ces assaillants qui sont arrêtés par les forces de sécurité. Est-ce qu'on leur pose des questions sur leur motivation, des questions pour savoir qui sont derrière eux? Est-ce que vous avez eu, vous, ONG, des défenses de droits de l'homme, vous avez eu à collaborer avec la justice militaire pour avoir un peu une idée sur qui sont derrière ces assaillants qui insécurisent la ville de Lubumbashi?
Bon, le constat est celui que vous venez de faire tantôt, parce que dans votre mot d'introduction, vous avez souligné le fait qu'aucune autorité, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national, n'a bien voulu se prêter à cet exercice. Et nous faisons la même chose. Je peux vous rassurer, madame, que pendant que nous parlons là, nous avons essayé d'entrer en contact avec toutes les autorités sécuritaires au niveau de la province pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, ou même, si possible, avoir des éléments d'information par rapport aux autres cas d'incursion, mais la réponse a toujours été la même, négative. On ne vous donne presque rien. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des audiences qui ont été organisées dans cette province depuis un certain temps, 3 ou 4 audiences maintenant depuis 5 ans, et lors de ces différentes audiences, je dois vous avouer très sincèrement que même dans les interrogatoires, vous sentez que les OPJ ou les magistrats instructeurs passent totalement à côté. Ils posent des questions qui ne peuvent pas permettre à ce que la vérité soit effectivement bien connue. Donc il y a vraiment une défaillance à plusieurs niveaux. Mais maintenant, par rapport à ces audiences, nous savons que des gens ont été entendus, des gens ont donné des informations, ils ont donné des pistes, mais ces pistes-là n'ont jamais été explorées. Je ne vous surprends pas en vous disant que, bon, maintenant, on essaye d'aller de faire quelques perquisitions domiciliaires ici à Lubumbashi, mais des perquisitions qui apparemment ne donnent rien, parce que au lieu d'aller là où il faut aller, nos services vont plutôt là où ils ne vont rien avoir. Donc je crois que les revendications de manière générale sont connues de tous. On sait que ce sont des Bakatakatanga, ils réclament l'indépendance du Katanga, mais maintenant avec tout ce que nous connaissons comme actualité politique au niveau national, notamment avec les divorces du mariage FCC-CH, il était tout à fait normal que l'on s'entende, que l'on s'attende plutôt à ce que des incursions du genre ou une recrudescence de la criminalité ou de l'insécurité de manière générale dans la province du Haut-Katanga ou du Grand Katanga général puisse s'intensifier.
Maître Timothée Mbouya, est-ce que on peut parler d'une situation entretenue?
Oui, écoutez, l'année passée, il y a eu des incursions et il y a eu une commission d'enquête. Le vice-premier ministre au mois de mars était même venu à Lubumbashi. Une commission d'enquête avait été mise en place. Cette commission d'enquête, on ne sait pas où elle a fait le travail. On a quand même vu des gens pendant l'état d'urgence, 100 de personnes venir. Ils auraient entendu des gens, ils auraient fait des recherches ça et là, et je dois vous assurer que les conclusions de cette enquête-là sont, si pas dans les tiroirs des gens, mais peut-être dans leur poche. Au-delà du mois de mars, vers la fin de l'année, il y a encore eu, donc le mois de septembre, il y a encore eu des incursions, des gens ont été tués, on a encore envoyé des gens qui sont venus faire des enquêtes, et jusque-là, rien n'a filtré. Maintenant, comme je le disais tantôt, le gouvernement, le ministre provincial de l'Intérieur, il a donné dans son compte rendu des informations qui sont très utiles, notamment que des armes lourdes ont été saisies entre les mains de ces gens-là. Et ces armes lourdes, ils ne les ont pas achetées, ils les ont certainement eues de la part des gens qui sont dans nos services et qui probablement travaillent dans les dépôts d'armement. Il y a quelques jours, madame, moi et certains de mes collaborateurs, nous avons été dans une mission d'enquête dans le Grand Katanga. Nous sommes arrivés dans certains villages, on nous a pointé notamment dans le Olomami, on nous a pointé des montagnes où se trouveraient, probablement, où se trouveraient des maïmaï. Mais bon, et nous posons la question de savoir est-ce que toutes les autorités sont au courant de leur présence. On nous dit oui, tout le monde est au courant que dans ces montagnes-là ou dans cette brousse-là, il y a des maïmaï et personne ne fait rien. Donc je
Merci.
Crois que c'est une situation qui est connue de tout le monde et elle est également entretenue, malheureusement.
Maître King Mushilanama, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, madame, je suis en ligne.
Alors, je rappelle que vous êtes coordonnateur général de l'ONG Humanisme et Droits Humains, HDH. C'est une ONG basée à Lubumbashi. Quelle est votre lecture à vous de cette énième incursion des Bakata Katanga dans la ville de Lubumbashi?
Oui, au fait, les incursions répétées dans la ville de Lubumbashi prouvent à suffisance qu'il y a un laxisme du système de sécurité en province du Haut-Katanga. Et c'est pour cela que nous avons même plaidé pour qu'on puisse passer à la réorganisation du système sécuritaire. Vous allez constater qu'il y a une négligence manifeste dans les chefs des militaires. Parfois, nous pouvons même dire qu'il y a même une complicité. Parce que si nous faisons marche en arrière, je peux rappeler qu'il y a quelques grandes attaques, on avait attaqué l'aéroport de Lubumbashi sous la conduite d'une dame qu'on appelait Mama Kaini. Une fois là, les Bakata Katanga ont quitté la Rwashi du quartier Luooshi jusqu'au centre-ville. Sous le régime actuel du gouverneur actuel Kiabula Katwe, ils ont quitté le quartier Chamalale jusqu'en ville, jusqu'à attaquer la RTNC, jusqu'à attaquer même les tentatives d'attaque du gouvernement, du siège administratif du gouvernement provincial. Et c'est pour cela que nous, à notre niveau, nous sommes en train de dire que c'est une situation, soit il y a une incompétence, soit il y a une complicité. Parce que quand vous analysez la situation, vous allez remarquer que les gens qui doivent faire réellement les renseignements, ils ne font pas les renseignements. Ils sont plus dans l'affairisme, ils sont plus dans les mining. Ils sont plus à la frontière, là où ils doivent faire des douaniers des véhicules et ils ont des commissions. Cela complique la situation. Ce qui fait qu'on vous dira ça et là, il y a les maïmaï, qu'en réalité, on ne trouve pas même des maïmaï. La dernière fois, quand on a attaqué la ville, ils n'ont rien trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé même les jeunes qui sont sales. Quand on trouve un jeune sale, là, on l'assimile au maïmaï. On fait semblant d'organiser des petits procès. Mais on n'arrive pas à identifier les vrais auteurs, les vrais criminels. On est en train de ramasser les petits ça et là.
On n'arrive pas, Maître King, on n'arrive pas à identifier les vrais auteurs ou on ne veut pas identifier les vrais auteurs.
On ne veut pas identifier les vrais auteurs parce que la vérité est ailleurs. C'est connu même de tout le monde. Et c'est pour cela que moi je vous dis, quand on fait les enquêtes, on ne publie pas les enquêtes, on ne fait pas la publication des rapports des enquêtes. C'est très aberrant. Au mois de mars, il y avait une forte délégation conduite par l'actuel ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. On avait consulté presque toutes les couches de la population. Mais les rapports en question n'a jamais été rendu public. On ne sait pas pourquoi. Et lorsque vous arrivez même au niveau de la justice militaire, vous allez remarquer qu'il n'y a même pas de dossiers ouverts par rapport aux gens qu'on a suspectés. Il faut identifier la main invisible et ne pas laisser la contagion se propager partout.
Professeur Gaba Badi Kabuya, criminologue, vous êtes directeur de l'école de criminologie de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Beaucoup de gens se posent la question, cherchent à comprendre comment ces miliciens peuvent entrer, infiltrer la ville de Lubumbashi avec beaucoup de facilité, sans être appréhendés par les forces de l'ordre. Comment on peut expliquer cela?
Je vous remercie de la question. Je salue en passant Maître Lanama, particulièrement, et Maître Mbouya. Je pense que au niveau de cette incursion, il y a lieu d'envisager ce problème sous d'autres angles et particulièrement générer sous les études de questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été déjà dites au sujet de ce phénomène. Je pense que ce sont les bonnes questions qu'on se pose aussi. Madame, comment expliquer que le même phénomène, la même situation se répète avec le même mode opératoire? Il faut qu'on arrive à répondre à cette question. C'est vrai que plusieurs éléments peuvent être évoqués au niveau des individus, au niveau des structures, au niveau des institutions, au niveau des rapports entre les différentes institutions. On peut aborder la question selon l'incompétence des différentes institutions que nous avons, ou les acteurs qui sont impliqués dans la sécurisation de la ville. Mais c'est quand même inquiétant de se rendre compte que le même texte répète et avec les mêmes modes opératoires. Évidemment, ça change un tout petit peu. Kimbembe, en tout cas, c'est pas n'importe où. On ne va pas les amuser à cet endroit-là. On s'attaque vraiment au meilleur système de sécurisation de cette ville.
Professeur Gabin, s'il vous plaît.
Professeur,
s'il vous plaît, on a du mal à vous suivre. Est-ce que vous avez mis en mode main libre votre téléphone?
Oui, tout à fait.
Voilà le problème, on a du mal à vous suivre.
D'accord, je vais le remettre à l'oreille.
La qualité s'est vraiment améliorée.
D'accord, je suis désolé.
On vous écoute, professeur.
Alors, on a davantage dans la gestion de ce problème privilégié l'approche répressive. C'est vrai que la répression, c'est un outil de politique publique en matière de gestion de la délinquance. Ça, c'est vrai, très connu partout. Mais ce n'est pas le seul. C'est un instrument de gestion, mais ce n'est pas le seul instrument. Face à des situations complexes, comme celui qui nous occupe là, il est impérieux de combiner les approches. À la répression, il faut également envisager d'autres approches. Et on l'avait évoqué l'autre fois, c'est dommage qu'on ne puisse pas nous suivre, c'est des compatriotes, c'est des Congolais, c'est des humains. À partir du moment où ils agissent avec une telle détermination, 50 personnes, même 100 personnes, ne peuvent pas s'attaquer au noyau dur du système de la défense de la ville. Ils ne peuvent pas s'attaquer. Quelle détermination ils peuvent avoir? Donc il faut questionner leur perception. Comment ils perçoivent leur lutte? Quelles sont leurs revendications? Quel est leur profit? Comment ils se situent par rapport à tout ça? Donc il faut également travailler à répondre à toutes ces questions-là ou envisager des mécanismes de prévention. Il ne faut pas attendre qu'on puisse agir pour qu'on se dise, voilà, qu'on réagisse. Non, la réaction, c'est vrai, c'est une attitude qui peut être recommandable, mais dans des cas d'espèce, et surtout lorsqu'on a affaire à des vies humaines, il faut envisager d'autres approches. Donc, le primat de la répression, la faiblesse dans l'évaluation, sont là les éléments qui, les défauts de proactivité également, sont là les éléments qui peuvent justement expliquer cette situation.
Alors, il y a une réaction qui nous vient de Lubumbashi, professeur Gabin. C'est Jacques, qui nous écrit depuis Lubumbashi. Il dit ceci: à mon humble avis, ce qui se passe à Lubumbashi est organisé par nous-mêmes Katangé pour pousser la population au soulèvement. En date du 13 février, un audio a circulé sur les réseaux sociaux comme avertissement pour dire à la population de ne pas sortir le 14 parce qu'il y aurait incursion. Donc tout le monde était au courant de cela. La question que je me pose est la suivante: en écoutant cet audio, pourquoi est-ce que les autorités n'ont pas pris des mesures nécessaires? Donc, il y a une main noire dans tout ça.
Je pense qu'il peut avoir raison, effectivement, parce que c'est depuis quelques jours qu'on a suivi sur les réseaux sociaux qu'il y avait ce mouvement-là qui se préparait. Mais je vais peut-être aller à un autre niveau, madame. C'est très facile, on a eu l'habitude chaque fois qu'il y a ce genre de mouvement, on rallie ça très rapidement à la police. C'est vrai que c'est facile comme de réflexion, oui, on peut dire cela parfois comme une sorte de racisme, mais ces phénomènes datent de longtemps. Et comment on expliquerait les autres phénomènes-là? C'était également, vous voyez, demander à la population de se soulever. Moi, je ne vois pas les choses sous cet angle-là. Je pense que c'est des raccourcis qui ne nous permettent pas de pousser la réflexion plus loin. Lorsqu'on commence à chercher des boucs émissaires, c'est elle qui est à l'origine de ça. On peut le faire. Mais le problème est sérieux, il faut l'analyser dans toute sa complexité. Et ne pas réduire cela au pour qualifier des divorces entre cash et FCC. Je pense que c'est très facile d'aller sur cette piste-là. Mais le problème est très complexe et il faut l'envisager dans toute sa globalité et toute sa complexité. Donc, dire que c'est pour un soulèvement, je ne partage pas vraiment cet avis. Mais ce qui est réel, c'est que il y a un problème sérieux, c'est que l'exploitation de ces informations, les prédécesseurs l'ont dit, les services de renseignement, que sont ces services de renseignement? Ça, c'est une question qui demeure et on continuera à se la poser.
Merci, on vous garde encore dans cette émission. Ils sont nombreux, ces auditeurs qui nous appellent sur notre standard. Je rappelle que nous avons tenté d'avoir une autorité provinciale du Haut-Katanga et même une autorité au niveau national pour participer à cette émission. Malheureusement, personne n'a voulu s'exprimer. Donc, vous allez comprendre qu'il y a certaines de vos questions qui n'auront pas de réponses dans cette émission, chers auditeurs des radios Okapi. Maître Timothée Mbouya, on va quand même prendre cet auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi, qui a une réaction à donner par rapport au sujet de ce soir.
John Kevara depuis la ville de Lubumbashi. La situation d'impression du présumé Bakatakatanga ou le présumé Mai Mai n'est qu'une poudre aux yeux des Congolais. On se rappelle en 2020, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba, était à Lubumbashi pour une enquête après le massacre qui avait accompagné l'incursion de Bakatakatanga. Plusieurs révélations ont été faites et les commanditaires ont été cités. Aucun impact jusqu'à ces jours, jusqu'à ce qu'il est parti à Lubumbashi. Mais aussi le dimanche dernier, bien sûr hier, le présumé Mai Mai a fait une incursion à Lubumbashi, visant aussi le camp Kimbembe. Et pourtant, autour du camp Kimbembe, il y a beaucoup de gardes républicains qui sont en train de circuler vers l'aéroport partout là. On se pose la question, comment ils ont su à traverser toutes les barrières de ces militaires pour arriver jusqu'au camp Kimbembe, là où il y a un magasin d'armes. On comprend qu'il y a complicité.
Que pensez-vous, Maître Timothée Mbouya, du point de vue de John Kebara qui nous a appelé depuis Lubumbashi?
Je comprends bien sa préoccupation.
Ben, il revient aussi sur cette affaire de complicité entre ces Bakatakatanga et certaines personnalités, autorités du Haut-Katanga.
Tout à fait. Il renforce pratiquement notre position. En fait, les Bakatakatanga ne sont pas des gens qui tombent du ciel. C'est des gens comme le pauvre Gabin l'a dit, maintenant qui vivent avec nous. Ils sont à la cité, ils sont dans nos maisons, ils sont un peu partout ici. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que des gens ne sont pas dans la prison de la destruction, de plusieurs libertés, notamment les libertés de réunion, les libertés de mouvement. Bon, maintenant, que ces gens-là puissent s'organiser, tenir de réunion, probablement aussi apprendre à manier des armes, prendre des stratégies, ça demande que ils se réunissent quelque part. Et là, vous avez des services de renseignement qui ne peuvent pas être au courant du mouvement de plusieurs personnes pendant cette période supposée être une période extrêmement dangereuse. Je crois que maintenant nous sommes dans une perspective de la mise en place ou de la réforme des services de sécurité, comme le disait Maître King tantôt. Donc nous pensons que le moment est venu pour que tous nos services de sécurité soient des services qui soient réellement au service de la nation et non des individus. Je pense que si les gens ont des revendications à faire, il faudrait que ces revendications-là soient pacifiques et ils doivent savoir auprès de qui on peut apporter des revendications pacifiques pour des solutions appropriées. Mais ce qui est vrai, comme je l'ai dit tantôt, ils allaient s'attendre à ce qu'avec tous les embarquements politiques qu'il y a eu dans le pays, le mouvement des institutions de Mai Mai que nous avons connu un peu timidement par le passé, puisse quand même un peu se sensibiliser parce que, bon, qu'on le veuille ou pas, nous sommes quand même dans la province subdite, province d'un ancien président de la République, et il est normal qu'il y ait parti par là des gens qui tentent d'exprimer leur mécontentement par telle ou par telle autre voie. Maintenant, ce qui est important, c'est que nous devons avoir des services de sécurité qui n'attendent pas qu'ils soient attaqués pour réagir, donc qui anticipent, avec bien entendu des solutions telles qu'elles ont été proposées aussi par les profs cadres.
Merci. Maître King Mouchilanama, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient encore une fois de Lubumbashi.
Trésor Bopé Pakwei, je vous appelle depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éprouvées et condamnons ces attaques à répétition qui coûtent cher à la République. Attaquer les camps Kimbembe, c'est compréhensible car ces derniers étant à l'entrée de la ville. Et c'est normal que ces assaillants surprennent la garde républicaine. Mais les camps qui bâtissent en plein centre-ville de Lubumbashi, c'est inacceptable, voire même incompréhensible. Pourquoi? Car on peut se poser la question de savoir comment ces assaillants ont-ils arrivé jusqu'au niveau de Kibati, quand on sait bien que le couvre-feu est opérationnel jusqu'à 5 heures du matin. Nous pensons que les gouvernements provinciaux et les services de sécurité sont responsables de tout ceci, car n'ayant pas été en mesure de repousser ces hors-la-loi bien avant qu'ils franchissent la ligne rouge.
Maître King.
Oui, je comprends sa préoccupation. Sa préoccupation est très fondée.
C'est ce que nous avons dit hier, le système sécuritaire acquis trop de faiblesses. Le système sécuritaire est devenu trop défaillant. Les gens sont plus dans l'affairisme que dans le travail de sécurité. Il est inconcevable, madame, comme il l'a souligné, c'est inconcevable qu'on puisse attaquer un camp militaire. Je me souviendrai lorsqu'on était, on faisait le scoutisme. On va quelque part en brousse. On s'organisait, on met des personnes là devant pour organiser la sécurité. Il y a ceux-là qui font l'éclairage, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut arriver à pénétrer à 4 heures du matin facilement dans un camp militaire? Or, un camp militaire doit être protégé par les éléments qui sont dans les mêmes camps. C'est-à-dire, ces gens-là, ils se mettent seulement sur la voie, parce que nous avons la grande voie devant les camps du BND, qui quittent Lubumbashi vers Likasi. Ils sont seulement sur la grande voie pour traquer les camions qui passent la nuit. C'est inadmissible.
Alors, Maître King, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement pour qu'on mette finalement fin à ce phénomène Bakata Katanga et ses incursions à répétition?
Madame, notre proposition serait quand même formulée en termes de recommandations. Il faudrait d'abord qu'on puisse changer tous les responsables des services de renseignement. Qu'on puisse aussi changer les militaires qui ont fait plus de 2 ans dans la même ville, dans les mêmes camps. Parce que la plupart des militaires ne sont même pas dans leur camp, ils sont plus qu'à la cité. Et donc, il faut qu'il y ait vraiment un changement, comme on le faisait à l'époque. Chaque 6 mois, on fait un mouvement des militaires, de Kimbembe vers Katanga, par exemple. Une fois qu'on constate que les mêmes militaires ont déjà fait 2 ans ou 1 année dans une même province, qu'on les amène dans une autre province. Je crois que ça va quand même éradiquer ce phénomène-là. Au puis, une autre recommandation, c'est que la justice militaire puisse arriver à déceler cette incompétence et la complicité dans les chefs de certains militaires qui sont en train d'opérer ça et là, parce que c'est connu de tout le monde qu'il y a aussi des militaires, certains chefs, qui tirent des épingles dans cette affaire. Donc là, ça, ce sont des grandes recommandations. La dernière recommandation, je préférerais à ce que les différents rapports sur les enquêtes soient vraiment publiés pour permettre à ce que nous puissions analyser conjointement avec les autres acteurs du système sécuritaire, bien entendu, aussi faire les évaluations telles que l'a proposé le professeur Gabin. On doit faire l'évaluation du phénomène telle que la situation s'est passée. On peut faire l'évaluation avec les organisations de la société civile qui s'intéressent à l'affaire, avec les experts tels que le professeur Gardin et les autres. On peut faire les évaluations entre militaires et puis on peut faire les évaluations au niveau politique. Je crois que c'est comme ça qu'il faut réagir pour que nous puissions éradiquer ce phénomène avec urgence.
Merci, voilà Maître King. Merci, Maître King. Professeur Gabin, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kinshasa.
Patient Paul Ngoui, depuis Mongafula à Kinshasa. L'État congolais ne doit pas seulement se contenter à neutraliser quelques éléments, mais tuer certains et repousser d'autres, mais chercher coûte que coûte à savoir comment ces rebelles Bakata Katanga opèrent jusqu'à atteindre le grand centre-ville réputé pour des échanges commerciaux et où est presque toutes les activités de la province. Et à force qu'ils avancent et parviennent à cibler certains sites censés être mieux protégés comme une base militaire liée où tout l'armement de la province est concentré, en cas de problème, on fait appel pour les renforcements, soyons sûrs qu'un jour, ils réussiront leur mission si les autorités ne, ne, que soient au niveau provincial tout comme national ne prennent pas des précautions pour éviter le pire qui peut venir en étant sur du trait alors que l'ennemi poursuit son objectif et jusqu'à ce qu'il obtienne le résultat final. L'État est appelé donc à doubler d'efforts en appuyant les différents services sécuritaires en moyens matériels comme financiers pour des enquêtes sérieuses.
Professeur Gaba, on est dans les solutions. Hein. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour éviter ces incursions à répétition, pour mettre fin à ce phénomène Bakatakatanga?
Merci beaucoup. Je commencerai par ce que le gouvernement devra éviter, avant de proposer ce que le gouvernement devra faire. En fait, c'est limité à faire de rapports, présenter un rapport des incidents qui ont été déroulés. J'ai discuté avec le rapporteur du Comité national de sécurité, je l'ai suivi avec le ministre de l'Intérieur. Je pense que cela frise une certaine complaisance et une certaine sorte de mépris vis-à-vis des. C'est limité à inventorier, il y a eu 15 morts, 10 morts, 3 morts blessés et qu'on sort. C'est comme si c'était des chiffres des humains. Il faut arrêter avec ces systèmes-là. Moi, je pense qu'il faut aller un peu au-delà de cela. C'est des militaires. Il y a des militaires qui sont morts ici. Qu'est-ce qu'on en a fait? Leur famille, qu'est-ce qu'on en a fait? Il faut arrêter ces discours-là. On sait très bien que c'est un discours qui va souvent dans le sens d'apaiser les esprits de la population, mais qui permet, qui donne l'impression qu'on maîtrise mieux les choses et qu'on est en train de les gérer suffisamment. Mais ces chiffres-là ne disent rien. Je pense que c'est méprisant vis-à-vis ça prise la complaisance et ça prise également le mépris vis-à-vis des victimes. En termes de propositions, ce qu'elle devra faire, c'est que il y a eu des expériences, les cas d'incursion passés, c'est un peu difficile peut-être de réunir suffisamment d'éléments, sauf s'il y a des personnes qui ont été condamnées, incarcérées dans ce cadre-là, et qui sont là, en fait, pour procéder à des entretiens, faire d'autres, faire des études un peu plus approfondies, qui peuvent se coupler avec les autres propositions qui ont été formulées, notamment par Maître Mfilama, avec différents acteurs qui sont impliqués dans ces systèmes-là. Donc il faut évaluer les actions des services impliqués durant les précédentes incursions. Il faut vraiment les évaluer de manière sérieuse. Et il faudrait d'ailleurs essayer de diversifier les cadres des évaluations. Je comprends très bien. Souvent, vous allez, parce que c'était un domaine secret, défense et consorts. Mais on évolue, il y a certains aspects qui peuvent être abordés par qui ne sont pas totalement limités par ces secrets défense, ni l'évaluation récente. Et une autre proposition, madame, on se comporte dans la ville de Lubumbashi comme si on n'avait pas une université dotée d'une institution qui peut réfléchir sur ces questions-là. Mon prédécesseur, le professeur, mon collègue, le professeur Chinyama, a même fois évoqué ces questions. Il est plusieurs fois revenu sur les propositions. Elles sont d'une école de criminologie. Le gouvernement congolais paye les enseignants au niveau de l'école de criminologie pour qu'ils puissent dispenser des enseignements, mais aussi qu'ils puissent contribuer dans les cadres de services à la société, afin qu'elle fasse des propositions. On recourt à cette expertise qui peut également aider. Elle ne pourra peut-être pas permettre de trouver des solutions de manière définitive, mais on pourrait avancer progressivement et on pourrait croiser les regards et apporter des solutions plus efficaces à cette situation. Parce qu'effectivement, on peut nous dire que la situation est sous contrôle. Ça, on le dit régulièrement. Tout le monde dit la situation est sous contrôle. Madame, c'est pour combien de temps? C'est pour combien de mois encore? Parce que ça vient de se passer. C'est pour combien de mois? C'est pour demain, après-demain. La prochaine fois, ce sera quand? On peut poser cette question. Ce qui fait qu'il faudrait qu'on se comporte comme étant une Lubumbashi. Même le Haut-Katanga en général, c'est une universitaire. Il faudrait qu'on se comporte de cette manière. Les sociétés qui ont été confrontées à des problèmes, elles sont appuyées sur les universités. On a des experts partout maintenant. Il suffit de faire une formation à tel endroit où il y a experts.
Merci.
On rentabilise cela. Troisièmement, qu'on envisage aussi plusieurs approches, qu'il ne faudrait pas rester dans une seule approche préventive et répressive. Il faut également prévenir. Et pour prévenir, il faut avoir suffisamment d'informations. Il faut mieux connaître le phénomène, mieux les cerner, et à partir de cette connaissance, on peut envisager les meilleurs moyens de prévenir.
Merci,
ça,
professeur.
On va continuer à décrire cette situation.
Merci, professeur Gabin Badi Kiabouya. Maître Timothée Bouya, ça sera aussi votre conclusion. Hein, comment mettre fin à ce phénomène Bakatakatanga?
Alors, pour y mettre fin, je crois que le gouvernement doit donner l'impression, hein, si vous voulez, vous le permettez, d'une institution qui comprend bien le phénomène, qui le maîtrise et cela passe par des études vraiment sérieuses. Pour comprendre ce phénomène et pour y apporter des solutions appropriées. Mais je crois aussi que de manière générale, c'est que le message que transmettent ces gens, c'est qu'ils ont faim, c'est qu'ils désirent que leurs conditions de vie soient améliorées, et je pense que si de manière générale pour toute la République, et même particulièrement pour le Haut-Katanga ou les Grands Katanga, si vous voulez, on mettait suffisamment de moyens pour encadrer la jeunesse dans des activités autres que les activités de chômage, je pense qu'on aura suffisamment fait quelque chose. Mais j'aimerais également profiter de cette occasion pour lancer un appel. Un appel d'abord aux politiciens congolais, aux politiciens katangais de manière particulière, de ne pas instrumentaliser la jeunesse pour des fins de positionnement politique. Hier, nous avons vu des jeunes gens mourir bêtement, des jeunes gens qui probablement ont des femmes et des enfants, qui sont morts et leurs familles et leurs enfants seront abandonnés et probablement les enfants n'auront plus jamais une bonne vie, ne vont pas aller à l'école, ne vont pas travailler, donc ne seront pas promis à un bel avenir. Et j'aimerais également demander aux jeunes à qui on donne drogue et un peu d'argent, à qui on veut miroiter des projets irréalisables, de ne plus faire confiance à ces genres de politiciens ou à ces genres de manipulateurs et de se mettre plutôt au service de la nation et s'adonner à des activités qui peuvent leur rendre la joie d'être réellement congolais.
Merci, Maître Timothée Mbuya. Maître King, en 30 secondes, votre conclusion.
Oui, madame, je reste constant dans ce que je dis. Au fait, on doit vraiment réorganiser les systèmes sécuritaires. On ne peut pas avoir les mêmes opérateurs sécuritaires dans la même ville depuis des années et des années. C'est inconcevable qu'on permette tous ces gens-là qui sont dans les services de renseignement. Ça nous éviterait de connaître des problèmes avec les Bakatakatanga à répétition.
Merci. Merci, Maître King. Professeur Gabi Kabuya, Gabin Kabuya, votre conclusion.
Je reviendrai en fait sur ce que j'avais...
En 30 secondes, professeur.
Tout à fait. Je reviendrai sur un certain nombre d'éléments que j'avais évoqués. Très simplement qu'on est dans une ville universitaire, on ne peut pas mieux contenir une situation si on ne le comprend pas suffisamment. Et les compétences existent, il faudra recourir à ces compétences-là qui pourraient être mises en contribution pour améliorer, pour mettre fin à ce système. C'est vraiment désolant de constater que le même phénomène se répète pratiquement de la même manière. Et je pense que c'est tout ce que je pourrais dire en termes de conclusion.
Merci, professeur Gabin Badish Kabuya. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Guimaté Dola Madimba, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.